Je vous présente donc Monsieur Marbach, qui va nous parler du généraliste, du spécialiste et de l'expert. Gabriel Marbach est diplômé de l'École centrale de Paris. Il est docteur en sciences des matériaux, une thèse qu'il a passée à Orsay en 1976. Et depuis, il travaille au commissariat à l'énergie atomique pour le programme des réacteurs à neutrons rapides dans le domaine du combustible, des matériaux, de l'intégration et de la sûreté nucléaire. Il met en application cette démarche depuis 1996 sur le projet ITER. En 2001, il devient responsable de la coordination de toutes les recherches sur la technologie de la fusion au commissariat à l'énergie atomique. En 2002, il est adjoint à la direction de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique avant de prendre la tête de cet institut en 2008. Il participe également en tant que membre ou expert à différents comités de programme ou à différents groupes d'évaluation au niveau européen. Gabriel Marbach, la parole est à vous pour 50 minutes pour nous parler du généraliste, du spécialiste et de l'expert.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis évidemment très honoré de participer à ce cycle de conférences de l'Université de tous les savoirs. Mais je dois dire que lorsque Franck de Bouc m'a demandé si je pouvais intervenir dans le cadre de cette université pour apporter un éclairage sur le généraliste, le spécialiste et l'expert, ou plutôt d'ailleurs sur la contribution de ces différents acteurs à une activité ou un projet, je me suis vraiment demandé comment je pouvais appréhender ce sujet. Personnellement, je suis incapable de le traiter sur un mode sémantique ou purement théorique. Je ne vois pas non plus comment je pourrais le traiter sous la forme d'une histoire ou d'une fable où interviendraient ces trois personnages à la manière de La Fontaine ou d'un conte. Ce que je me propose de faire, c'est d'illustrer le rôle de chacun de ces acteurs dans quelques activités issues de mon domaine personnel de travail et plus particulièrement de la recherche sur la fusion contrôlée. Et cela m'amènera à vous présenter, d'ailleurs, au cours de cet exposé, une introduction à ce domaine de recherche. Puis ensuite, j'essaierai d'en tirer quelques observations ou quelques réflexions qui, j'espère, auront un intérêt plus général. En guise d'introduction, je voudrais quand même reprendre le questionnement général de ce cycle de conférences. Qu'est-ce qu'un ingénieur ? Il est évident que je ne vais pas traiter cela en quelques instants, ne serait-ce que parce que ça fait l'objet d'un cycle complet. J'ai trouvé cette définition sur Internet, sur Wikipédia exactement, et elle me semble bien répondre à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Un ingénieur est une personne ayant reçu une formation scientifique la rendant apte à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques d'une part, économiques, sociales et humaines d'autre part, le tout reposant sur une solide culture scientifique. Si l'on accepte cette définition de l'ingénieur, cette acception, l'ingénieur est généraliste par nature, ou au moins par formation. Néanmoins, comme le savoir universel est difficile à embrasser maintenant par une seule personne, l'ingénieur peut développer un certain nombre de compétences spécifiques de par ses études ou son expérience. Cette spécialité peut se focaliser sur un champ technique, ingénieur en mécanique, ingénieur électricien, ingénieur informaticien, ingénieur en génie civil, chimiste ou d'autres. Je vous laisse établir une liste plus exhaustive. Mais cette spécialité peut aussi se focaliser sur un champ méthodologique, ingénieur qualité, ingénieur méthode, ingénieur de production, voire même ingénieur d'affaires, ingénieur sécurité, etc. La formation d'ingénieur n'est évidemment pas la seule pour former un spécialiste. Une autre voie, c'est la voie universitaire, et c'est d'ailleurs la voie normale, voire unique, à l'étranger. Cette formation est ensuite complétée en général par un doctorat, et voire même des années supplémentaires de post-doctorat. L'aspect plus généraliste de la formation est alors acquis, soit par l'expérience, ou alors par des formations complémentaires. Dans la suite de mon propos, et notamment dans le cas du spécialiste, je ne distinguerai donc pas les acteurs en fonction de leur formation, d'autant plus que dans mon domaine, et plus particulièrement dans le domaine de la recherche, nombre d'ingénieurs ont en plus de leur formation un doctorat, voire des années de post-doctorat. Venons-en maintenant à notre troisième personnage, l'expert. En première approche, l'expert est celui qui sait sur un champ encore plus délimité du savoir. Cette définition s'apparente alors plus de celle du savant. Mais lorsqu'on parle d'un savant, on pense plutôt au fait que cette personne développe son niveau de connaissance, alors que lorsque l'on parle de l'expert, on pense plutôt à son aptitude à communiquer sur son savoir. En plus d'une qualité de spécialiste, l'expert se caractérise donc comme apte à expliciter un jugement sur un sujet et à intervenir dans les débats qui concernent ce sujet. Le monde actuel, dont l'appréhension est complexe, est à la recherche d'avis d'experts. Vous avez évidemment pu le constater dans les médias, mais c'est vrai également à différents niveaux pour l'évaluation des programmes, pour certaines prévisions, sans parler évidemment des domaines de la justice ou de l'administration. En plus de son aptitude à communiquer, on attend de l'expert d'autres qualités. D'abord, et c'est évident, des qualités morales ou éthiques. Être honnête, être franc. On attend de sa part de l'indépendance, ce qui veut dire qu'il ne doit pas être influencé par des intérêts externes qui seraient susceptibles d'influencer son jugement. Enfin, on attend de lui qu'il soit transparent, c'est-à-dire qu'il soit capable d'expliciter son avis. Je pense que vous avez tous eu affaire, ou plutôt tous entendu parler, de querelles d'experts, ce qui montre bien que ces qualités sont difficiles à obtenir et qu'il est toujours difficile d'avoir un jugement qui soit à la fois totalement indépendant et totalement transparent. Après cette introduction, je voudrais maintenant donc illustrer mon propos et voir comment ces différents acteurs peuvent intervenir dans quelques exemples de mon domaine personnel. Il est donc nécessaire, en premier, que je vous fasse une brève introduction sur ce domaine. Le domaine de la fusion magnétique contrôlée par confinement magnétique. L'ambition de nos recherches, c'est faire de la fusion par confinement magnétique une option réaliste parmi les sources d'énergie du futur. Nous bénéficions tous de l'énergie de fusion. C'est l'énergie des étoiles et donc celle du Soleil. Cette énergie provient d'une chaîne de réactions de fusion au sein du Soleil et que cette chaîne commence par la réaction hydrogène-hydrogène, ou plutôt proton-proton. En effet, à ces températures très élevées, les noyaux sont séparés du cortège électronique, et l'on parle d'un état de plasma. C'est le quatrième état de la matière, en plus des états liquides, solides ou gazeux. C'est un état majoritaire dans l'univers, plus rare sur Terre, mais qui nous est néanmoins familier. On trouve des plasmas dans les tubes de néon. On observe des plasmas dans les éclairs pendant les orages ou bien pendant les arcs électriques. La réaction de fusion dans le Soleil présente une très faible probabilité. Et heureusement pour nous, car du fait de cette très faible probabilité, nous pouvons avoir l'espoir de bénéficier encore longtemps du rayonnement du Soleil. Il est donc très difficile d'obtenir la même réaction sur Terre. C'est pour ça que sur Terre, on s'intéresse à une réaction plus facile à obtenir, la réaction entre deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Cette réaction va former un atome d'hélium ce qu'on appelle aussi une particule alpha, et un neutron, fortement énergétique de 14 MeV. Cette réaction, pour exister, exige de très hautes températures, supérieures à 100 millions de degrés. À titre d'information, la température au sein du Soleil est de l'ordre de 10 millions de degrés. Il ne faut pas être effrayé par ces niveaux de température. Ils mesurent essentiellement le niveau d'activation de l'ensemble des constituants. Il faut d'autre part un confinement suffisant de manière à ce que la probabilité de rencontre entre deux atomes soit suffisante. Au sein du Soleil, ce confinement est réalisé par la gravité, compte tenu de la masse très importante du Soleil. Il est évident que sur Terre, on ne pourra pas réutiliser le même système. Comme les températures sont très élevées, il n'existe pas de matériaux qui soient capables de résister à ce niveau de température. Il nous faut alors créer une boîte virtuelle qui permette de contenir l'ensemble des constituants. La méthode qui a été utilisée et qui était proposée déjà il y a maintenant plus de 50 ans et la création d'une boîte virtuelle magnétique. Différentes configurations magnétiques ont été étudiées, mais la plus performante à l'heure actuelle est celle du tokamak. De manière très simplifiée, et je m'en excuse pour tous les spécialistes qui sont dans la salle, on réalise le confinement par la superposition d'un champ toroïdal qui entoure un anneau et de l'autre côté par un champ poloïdal qui est dû au courant induit lui-même au sein du plasma. Autrement dit, le courant induit par les particules, ou plutôt le mouvement des particules, va créer lui-même les forces qui vont tendre au confinement. La réaction de fusion dans un tokamak a déjà été observée. En Europe, par exemple, dans le JET. Le JET est le plus grand tokamak mondial à l'heure actuelle, de l'ordre de 100 mètres cubes de plasma. Il utilise des technologies conventionnelles. Par contre, il a pu mettre en évidence la faisabilité de réaction avec un niveau de 16 mégawatts de production d'énergie. Cela pendant quelques secondes. Mais le JET est limité en durée. D'abord parce que ces aimants utilisent des technologies conventionnelles, du cuivre, et qu'ils s'échauffent donc au bout rapidement. Et d'autre part parce qu'il n'y a pas de refroidissement interne et que donc les composants internes ont tendance à s'échauffer fortement, si bien qu'au bout de quelques instants, on est conduit à arrêter la réaction. Nous avons également une installation à Cadarache, Torsupra, qui, au contraire du JET, met en œuvre des technologies plus innovantes, avec d'un côté la mise en œuvre de d'aimants supraconducteurs et de l'autre la possibilité de refroidissement de l'ensemble des internes. La taille est plus petite, nous ne mettons pas en œuvre de tritium, autrement dit, nous n'étudions pas directement la réaction de fusion deutérium-tritium. Notre objectif est essentiellement le contrôle de cet état du plasma à ce niveau de température sur de longues durées, dans l'objectif du futur. En effet, notre ambition pour le futur, et c'est notamment le cas de la prochaine étape ITER, est de marier les deux approches. D'un côté, de réaliser de l'énergie de fusion à bien plus grande échelle, 500 MW thermiques, pendant des durées importantes. La décharge standard vise 400 secondes. Et d'autre part, d'avoir une réaction nettement plus rentable que dans le cas du JET, c'est-à-dire d'apporter uniquement 50 MW de puissance thermique au plasma pour produire ces 500 MW. Au niveau du JET, cette énergie était plus importante que celle qui était produite. ITER est un projet international de recherche. Plusieurs partenaires se sont mis ensemble, l'Europe, les USA, la Russie, le Japon, la Chine, la Corée et l'Inde pour cette réalisation. Cette machine est en cours de construction à Cadarache, près d'Aix-en-Provence, sous la direction d'une équipe internationale et qui est donc distincte du CEA, L'organisation qui a été mise en place a été mise en place sous la forme d'un traité signé maintenant il y a un peu plus de 2 ans à Paris. Voyons maintenant quelles sont les spécialités dont nous avons besoin et comment nous les mettons en œuvre. Et je m'intéresserai plus particulièrement à notre institut de confinement magnétique. Et cela plus particulièrement pour l'exploitation de notre machine, donc le tokamak Thor Supra. Notre institut comporte environ 300 personnes. Il fait partie du CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, puisque le nom a évolué depuis quelques jours. C'est le plus grand laboratoire français qui travaille dans ce domaine. Et nous faisons partie d'un réseau français, la Fédération de recherche, sur la fusion par confinement magnétique, avec le CNRS, des universités et l'INRIA. Nous faisons également partie d'un réseau européen dans le cadre d'Euratom, avec de nombreux laboratoires européens, et je dois dire que, au niveau européen, l'ensemble des recherches sont maintenant coordonnées au sein d'un système unique. La mise en œuvre d'un tokamak fait appel à des compétences très variées. Son exploitation nécessite notamment la maîtrise d'un grand nombre de spécialités. Je vais passer rapidement et certainement ne pas être exhaustif sur l'ensemble des systèmes et compétences nécessaires. Il faut évidemment créer et maintenir les champs magnétiques nécessaires pour la mise en œuvre de notre boîte virtuelle avec aimant supraconducteur. Aimant dont le conducteur est en niobium titane et pour lesquels d'ailleurs les aimants de Thor Supra ont été précurseurs par rapport aux systèmes magnétiques qui ont été ensuite utilisés dans le cadre de l'imagerie médicale. Nous avons besoin de compétences en cryogénie. Nous utilisons en effet de l'hélium à très basse température, 1,8 degré K, pour refroidir les aimants. Il s'agit ensuite d'être capable d'extraire la puissance du plasma avec les possibilités de refroidissement des internes. Nous utilisons une boucle à eau à 100 degrés 10 bars et des tours aéreux réfrigérantes à l'extérieur du bâtiment. Enfin, il faut être capable de chauffer le plasma. Le premier système de chauffage est l'effet Joule par l'intermédiaire du courant dont je vous parlais au sein de l'anneau, mais cet effet Joule est insuffisant pour atteindre les températures nécessaires. Nous sommes obligés d'apporter de la puissance complémentaire et sur Thor Supra, cette puissance est apportée essentiellement par des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, c'est exactement le même procédé que pour le micro-ondes de votre cuisine, sauf qu'au lieu d'avoir une puissance de l'ordre d'un kilowatt, c'est environ 10 mégawatts qui sont installés sur notre machine. Il faut mettre en œuvre de l'électrotechnique, de l'informatique pour le contrôle-commande et l'acquisition de données, et évidemment, des spécialistes en instrumentation sont nécessaires, puisque nous avons sur notre machine plus de 40 diagnostics installés. Comment toutes ces compétences sont mises en œuvre pour la réalisation des essais ? C'est maintenant ce que je vais tenter de vous expliquer. Une fois que le programme d'essai a été décidé, et je dois préciser d'ailleurs que ce programme d'essai fait appel à candidature d'essai auprès des différents chercheurs, une fois que le programme a été décidé, l'adéquation entre les besoins de chaque expérience et l'ensemble des ressources est gérée par une cellule de coordination technique. Le responsable de cette cellule s'assure de la disponibilité des différents sous-systèmes. Il s'occupe donc de la gestion du planning, de la programmation des maintenances et de la gestion de toutes les demandes de modification ou de non-conformité. Et cela, dans un dialogue constant avec les différents intervenants, avec donc les différentes équipes qui mettent en œuvre les différents systèmes. Une réunion hebdomadaire est notamment mise en place pendant ces périodes de manière à réaliser cette coordination. Pour tout projet ou modification même très modeste sur un élément de la machine, une organisation de projet est mise en place avec identification et gestion de toutes les interfaces et intégration des travaux dans le planning de la coordination technique. Nous venons de terminer au sein de Thor Supra une maintenance majeure avec des modifications importantes au sein de la machine. Près de 3 000 tâches ont été ont été nécessaires de mettre en place au niveau du planning. Et cette organisation a permis, in fine, d'arriver à recommencer la période expérimentale en heure dite grâce à une gestion rigoureuse de ce planning, une gestion dynamique puisqu'il a fallu gérer en permanence les coactivités. Après cette description, je voudrais essayer d'en tirer les leçons de manière un peu plus générique. Le premier point qui me semble important, c'est l'importance du cadre organisationnel, du cadre relationnel entre le coordonnateur et les différentes équipes d'intervention. Le deuxième point qui me semble important, c'est la gestion des interfaces. Et c'est un point sur lequel je serai encore amené à revenir. Interface entre les différents systèmes et donc entre les différents spécialistes. Nous avons en effet appris parfois à nos dépens que lorsque nous sommes lancés dans une intervention, même mineure, que l'on pensait limitée à un seul domaine, à un seul petit composant, en fait, cette intervention avait des répercussions sur des composants voisins, voire même lointains, et pouvait les endommager. Il s'agit donc d'être très prudent dans cette gestion globale, sachant qu'en plus, dans un tokamak, l'ensemble des systèmes sont très intégrés. Enfin, et à un autre niveau, il faut faire attention à la disponibilité de l'ensemble des ressources. Pour cette maintenance dont je vous ai parlé, nous avons apporté une très haute priorité au sein de notre institut et l'ensemble des ressources était mis en priorité sur cette affaire. Par contre, comme nous participons à d'autres activités en même temps, d'autres essais ou d'autres parties de projets, il est nécessaire de gérer l'ensemble des plannings ensemble pour une bonne adéquation des différentes ressources pour l'ensemble des participations. Il faut également prévoir cette gestion des compétences et des ressources pour le futur, et cela doit faire l'objet d'une réflexion, une gestion des compétences à mettre en œuvre au sein de l'institution. Je voudrais maintenant illustrer mon propos par un autre domaine, l'illustration au domaine des composants face au plasma, qui constitue en soi un autre défi technologique. Les composants face au plasma constituent la première surface matérielle en face du plasma. Je vous rappelle les niveaux de température, avec au centre du plasma de l'ordre de 100 millions de degrés et seulement quelques centaines de degrés sur les parois. Inutile de vous dire que déjà au sein du plasma, il y a de très forts gradients thermiques et encore des gradients thermiques plus forts lorsque l'on se rapproche de la paroi. Les composants face au plasma vont donc devoir remplir plusieurs missions. D'abord, extraire le flux énergétique. Nous avons des flux de l'ordre de 5 à 20 MW à extraire au sein de Tor Supra, et ce seront à peu près le même ordre de grandeur pour les composants face au plasma d'ITER. Ça constitue environ un petit peu moins qu'un ordre de grandeur de plus de ce que subit la navette lorsqu'elle rentre dans l'atmosphère. Il faut également prendre en compte des chargements mécaniques importants. Chargements mécaniques d'abord liés à la gravité, mais ce ne sont pas les plus importants. Chargements liés au gradient thermique, donc aux différences de température entre les différents composants, et puis chargements électromagnétiques. Un déchargement électromagnétique très important est constaté lorsque, pour une raison quelconque, le plasma est arrêté. À ce moment-là, le courant s'arrête et un courant inverse est induit dans les différentes structures et du fait du champ présent, va induire des forces très importantes. Au début des années 2000, nous avons mis en place un nouveau limiteur, un nouveau composant au sein de la machine, de manière à extraire plus de puissance. Je voudrais simplement prendre cet exemple pour montrer comment sont intervenues l'ensemble des compétences pour cette réalisation. Une fois bien précisés les besoins et les chargements dans toutes les situations prévues, les calculs de structure ont été lancés au sein du bureau d'études. Il faut préciser d'ailleurs que notre bureau de conception est à vocation polyvalente et qui s'intéresse non pas seulement à ces objets-là, mais également aux autres objets. Il s'agit peut-être là aussi d'un aspect généraliste dont on pourrait parler. Il a fallu ensuite s'occuper, définir quels sont les matériaux. J'ai oublié de vous dire que dans Tor Supra, les matériaux des composants face en plasma sont essentiellement du carbone, ou plus précisément un composite carbone avec fibre de carbone. La difficulté ensuite consiste à lier ce carbone avec le métal du système de caloporteur qui est en cuivre durci. Le procédé qui a été utilisé dans notre cas est d'utiliser une couche de compliance entre ces tuiles de carbone et les tuyaux de cuivre. Couche de compliance en cuivre plus mou que l'on arrive à faire adhérer sur le carbone en mettant au préalable des rayures sur ce carbone, rayures effectuées par laser. C'est un procédé breveté mis en place par une firme autrichienne. Une fois que ce procédé a été qualifié sur des maquettes, il s'agit de définir plus précisément les spécifications avant la fabrication, et notamment de définir les marges acceptables sur l'ensemble de ce système. La validation de ces marges a été faite en deux temps. D'abord, la validation de la taille et de l'étendue des défauts acceptables, en faisant des essais sous flux thermique représentatif, et puis ensuite, en mettant au point une méthode non destructive de test. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, et je n'ai certainement pas le temps, mais cette méthode non destructive est basée sur un cyclage thermique d'eau du caloporteur. On remplace en fait l'eau du caloporteur par de l'eau successivement froide et chaude. On mesure ensuite par l'émission infrarouge la température au niveau des tuiles de carbone. Et lorsqu'il y a un défaut dans la jonction, on observe un retard dans ce dispositif. Retard que l'on peut comparer par rapport à une aiguille témoin. La fabrication de l'ensemble du système, avec plus de 7 mètres carrés de surface et 600 éléments qu'on appelle des aiguilles, a duré 4 ans. Cette fabrication a été l'objet de plusieurs aléas. Je peux vous en raconter un, par exemple. Après la réussite d'une pré-série qui a montré un taux de rejet très faible, le fabricant a lancé une série plus importante, et à ce moment-là, cette série a montré un nombre de défauts beaucoup plus important, alors qu'a priori, l'ensemble des conditions de mise en œuvre étaient identiques. Un groupe d'experts a été envoyé pour visiter le fabricant. L'origine du défaut a été difficile à trouver, mais il semble qu'il soit dû, en fait, au fait que le fabricant a utilisé le même four lorsqu'il y avait peu d'aiguilles et de nombreuses aiguilles. Et que de ce fait-là, le cycle thermique des éléments au sein du four différait très légèrement parce que l'inertie était plus importante lorsque le nombre d'éléments avait accru. Ceci pour vous montrer simplement qu'au cours d'un processus de ce type-là, il faut d'un côté faire très attention à une extrapolation lorsque l'on parle d'une fabrication d'une maquette à une pré-série et ensuite à une série, et que d'autre part, la vigilance est nécessaire lors du déroulement de l'ensemble des phases. Il est également souvent nécessaire de faire des retours en arrière et d'être capable de critiquer l'ensemble du procédé. Cette fabrication a été un succès. Elle a permis notamment, pour notre installation, à obtenir un record mondial avec 6 minutes de plasma et plus d'un gigajoule échangé avec l'extérieur. Cependant, ça nous a permis également la mise en évidence, ou plutôt d'ailleurs la confirmation, parce que cela avait déjà été mis en évidence au niveau du jet, d'une difficulté. Nos parois en composite fibre de carbone retiennent une grande partie du gaz. On assiste à un piégeage qui atteint près d'un atome sur deux. Et plus ennuyeux, ce taux de rétention est constant pendant une décharge plasma, aucune saturation n'est observé après 6 minutes, et même lorsque l'on renouvelle des décharges, jusqu'à 5 heures cumulées, nous n'avons pas observé de saturation. Le choix du matériau est donc problématique, car le piégeage du combustible, deutérium-tritium, est évidemment inacceptable à terme, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Sauf à trouver des solutions simples et robotisées de nettoyage des composants, nous essayons plutôt de développer un système de nettoyage par laser avec intégration d'un bras porteur, mais la faisabilité technologique et économique sur le long terme n'est pas évidente. Il nous faut alors réfléchir à d'autres matériaux. Le matériau actuel sur lequel on fonde le plus d'espoir est un matériau réfractaire, le tungstène, ou plutôt d'ailleurs un alliage de tungstène. La difficulté est qu'il faut vraiment prendre en garde de ne pas qu'il n'y ait aucune pollution du plasma, parce que la compatibilité avec le plasma de cet alliage est très délicate. Des programmes de R&D sont en cours, aussi bien pour la mise en œuvre que pour des essais dans les tokamaks. Actuellement, des essais ont déjà lieu en Allemagne sur un petit tokamak ASDEX, et il est prévu de faire des essais sur le jet dans l'année prochaine. Sur ITER, la référence actuelle du projet est d'utiliser une conception mixte, avec du carbone sur les parties les plus exposées et du tungstène ailleurs. Cette référence a été qualifiée par des tests thermiques sur maquette, on a validé les 20 MW par mètre carré sur la partie carbone et 5 MW par mètre carré sur la partie tungstène. La question pourrait alors se poser, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas du tungstène sur l'ensemble de cette procédé? Premièrement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore validé actuellement la faisabilité d'avoir du tungstène face au plasma pour les énergies auxquelles nous sommes confrontés. C'est là où on voit en fait la différence entre, d'un côté, le temps propre du projet et le temps propre des activités de R&D. La stratégie actuelle proposée par l'équipe ITER est donc de démarrer avec cette référence et de prévoir ensuite un remplacement lorsque cela sera nécessaire et lorsqu'on aura bien et après la phase d'apprentissage de la machine. Néanmoins, actuellement, on pourrait réfléchir à une autre stratégie et éventuellement proposer de repousser le choix plus tardivement et de mener en parallèle le programme de recherche. Ce n'est pas actuellement la stratégie retenue, même si quelques experts l'ont proposé. Et c'est là aussi, je crois, un problème, quelque chose d'important, c'est que c'est au maître d'ouvrage, au responsable de l'équipe projet, de prendre sa décision en fonction de ses propres objectifs. Je voudrais enfin illustrer par un autre défi, c'est la mesure des températures des internes sur torse supra. La température est évaluée par des mesures infrarouges. Cette mesure est aisée avec du carbone massif. Le carbone présente une émissivité élevée et une faible réflexion. Une difficulté apparaît si le carbone est recouvert de dépôts hétérogènes qui ne sont pas parfaitement adhérents. On observera alors des points chauds puisque la liaison thermique est plus mauvaise. Et ces dépôts peuvent provenir de déplacements de matière du fait de l'érosion. Cependant, un traitement et une filtration adéquate des données permet de contourner cette difficulté. Nous avons donc mis en place un traitement de données et ce qui constitue en quelque sorte un mini-système expert au sein de notre machine. Et avec un système automatique d'asservissement, nous pouvons contrôler en temps réel la puissance injectée en fonction du risque de point chaud. Néanmoins, même si ce système est très performant, le jugement humain de l'expert est totalement indispensable pour interpréter les mesures et justement alimenter ce système expert. La mesure de température est plus délicate sur les métaux. En effet, l'émissivité des métaux est plus faible et très dépendante de la température et de l'état de surface. Il existe de plus une possibilité de réflexion liée à des éléments voisins. Si, par exemple, nous regardons un élément métallique, cet élément peut constituer un miroir et nous pouvons observer un point chaud dans cette direction, alors que ce point chaud provient en fait d'un élément qui se réfléchit sur cette surface. Nous travaillons dans ce domaine en essayant de définir des moyens innovants. Un des moyens sur le qui est proposé par, dans le cadre de notre institut est d'induire une modulation pulsée de la surface par une source d'énergie complémentaire, produite par exemple par un plasma, avec une fréquence adaptée qui soit ni celle du réseau, évidemment, ni celle des fréquences propres du plasma, et de discriminer ensuite avec le rayonnement, en analysant le rayonnement reçu, quelle est la part qui est issue de la surface du fait de cette fréquence, et puis la part qui est liée au niveau du bruit de fond. Pour avoir plus de précision et éliminer les termes, et notamment les termes dus à chauffage, on utilisera deux longueurs d'onde différentes. Quand je dis en fait qu'on travaille dessus, c'est un système innovant sur lequel nous mettons en œuvre des technologies avec d'autres laboratoires, notamment des laboratoires du CNRS. Et il s'agit là aussi de profiter de la synergie que permet la mise en place d'un réseau. Venons-en maintenant à quelques éléments de conclusion. Comme vous avez pu le constater dans les différents exemples que je vous ai présentés, le travail actuel est essentiellement un travail d'équipe faisant appel à des compétences pluridisciplinaires. Une des premières questions qui se pose au niveau d'une institution est d'avoir la bonne adéquation entre ses compétences, entre son nombre de spécialistes et les équipes qui le constituent, et de les planifier au mieux en fonction de ses prévisions pour le futur. Toutes les ressources ne proviennent pas forcément de l'interne, mais il faut alors prévoir la bonne organisation et les bonnes personnes pour assurer l'interface et la coordination avec les autres éléments, qu'ils soient des laboratoires, les autres institutions, qu'ils soient des laboratoires ou des industriels. Une autre façon, si les ressources globales sont insuffisantes, est de s'intégrer à un réseau plus vaste. Pour les études et le développement de certains composants pour ITER, par exemple, comme les diagnostics, certaines antennes, nous avons au sein de l'Europe mis en place ce qu'on appelle des consortiums entre instituts. Nous avons alors fédéré l'ensemble des moyens ensemble avec une seule équipe projet pour l'ensemble de cette activité. Et nous portons chacun notre brique élémentaire en faisant évidemment bien attention à la fois à la méthodologie globale et aux interfaces. Si nous revenons au titre de la conférence et à nos trois personnages, vous avez pu constater que j'ai guère parlé du généraliste dans tous mes exemples. Et pourtant, le chef de projet, le chargé d'affaires ou le coordonnateur ont un rôle très généraliste entre les différents, ou du moins polyvalent, entre les différents aspects techniques. Mais du fait même de cette fonction, et pour leur activité dans ce domaine, ils deviennent en quelque sorte un spécialiste. Un chef de projet met en œuvre une approche et une méthodologie qui l'apparente en fait à un spécialiste. Et cela devient un métier en soi. J'ai vu des chefs de projet spécialisés dans des domaines très spécifiques qui ensuite ont pu mettre à profit leurs qualités dans des domaines très différents en utilisant la même technologie et la synergie que permet ces différentes approches. Cela me donne l'occasion d'insister sur le rôle clé du chef de projet dans les différentes actions, dont le rôle principal est de fédérer les contributions de chacun. Sa première tâche, à mon avis, doit être de clarifier les objectifs en fonction du besoin. Et d'autre part, de s'assurer que la méthodologie qu'il propose est bien partagée entre les différents acteurs. Il faut, à mon avis, prendre le temps nécessaire pour cette première phase. J'ai vu, en effet, trop de cas dans ma carrière où les objectifs avaient été présentés très rapidement. Il semblait qu'ils soient partagés par les différents participants. Chacun est retourné dans son équipe, a travaillé dans son domaine, et lorsqu'ils sont revenus après quelque temps, les différentes pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas comme on l'espérait au départ. La gestion des interfaces est absolument primordiale et fait partie intégrante de cette méthodologie. Il faut pour ce faire proposer des outils. Dans les systèmes complexes actuels, la réalisation d'une maquette numérique dans le cadre d'un travail collaboratif est de plus en plus l'outil proposé. On peut utiliser cette maquette en statique et chacun des intervenants vient apporter dans cette maquette la conception de la partie dont il est responsable et ça permet de vérifier la bonne adéquation, la bonne interface entre les différents éléments. C'est déjà un progrès très notable, mais on peut également l'utiliser en dynamique et cela permet de réaliser et cela permet de visualiser les mouvements de l'ensemble des pièces, les opérations de maintenance, et voire même de réellement faire le choix des essais réels qui seront ensuite nécessaires et pour lesquels il ne sera pas nécessaire de faire un essai global. Lorsqu'on s'intéresse enfin à l'ensemble de la problématique, il me semble qu'un autre point important est le fait qu'il faut concilier le temps propre de chacun des intervenants. Le temps propre du bureau d'études, de l'ingénieur de fabrication ou du chercheur ne sont pas les mêmes. De manière assez caricaturale, l'ingénieur de fabrication aura tendance à vouloir disposer dès le début de l'ensemble des données, alors que le chercheur demandera à pouvoir bénéficier de plus de temps pour attendre qu'il puisse vraiment mener à bien l'ensemble de ses recherches et bénéficier au moins d'un essai supplémentaire. Il faut procéder à une analyse de risque sur la base des hypothèses connues qui permettent ensuite de faciliter le dialogue entre les différents intervenants. Enfin, il faut également prendre en compte les différentes approches culturelles. Les mots et les phrases n'ont pas toujours le même sens pour tous et les approches culturelles sont également différentes. C'est évident au niveau international. C'est déjà évident en Europe. Car en effet, l'approche française, souvent très cartésienne, avec analyse et synthèse, est très différente de ce que l'on observe par exemple dans les pays anglo-saxons, où c'est une méthode beaucoup plus empirique. Mais c'est encore plus vrai lorsque l'on se rapproche des pays qui sont plus lointains, comme le Japon ou l'Inde. Enfin, je voudrais souligner l'importance des revues de projets dans les différentes activités revues avec des intervenants externes. Ça me semble déjà important par le travail partagé qu'elle induit, par la confirmation des choix du fait des experts extérieurs qui vont donner leur avis, mais également par l'appropriation de l'ensemble des acteurs à un moment donné de l'avancement du projet en regard des personnes extérieures. Finalement, et cela sera ma conclusion, il faut bien se garder d'avoir une vision, à mon avis, avec un cloisonnement fermé entre les différentes compétences et différentes spécialités. Ce ne sont pas des boîtes closes sans interconnexion. Entre deux activités qu'une personne mène en même temps, il peut amener à jouer successivement la même personne, il peut être amené à jouer successivement un rôle qui soit plus généraliste ou plus spécialisé, plus méthodologique ou plus technique. Certes, on ne va pas changer un spécialiste de physique des matériaux en biologiste ou un spécialiste du plasma en spécialiste des matériaux, mais néanmoins, l'apport de chacun et des méthodes employées peut être utile dans des domaines très différents. Enfin, pour chaque individu, une absence de cloisonnement permet également des possibilités d'évolution dans la carrière, évoluer d'une partie technique vers une partie plus méthodologique, voire vers une partie plus généraliste. Pour finir, je voudrais dire et vraiment souligner que derrière toutes ces activités, il y a l'homme. Et c'est ce que je trouve vraiment passionnant par-dessus tout, c'est l'aventure humaine derrière l'aventure technique. Et ce que permet la confrontation entre les différentes approches culturelles, approches techniques, et approche méthodologique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, M. Marbach. La parole est à la salle pour quelques questions. Je vois une main levée au milieu à droite.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous avons eu il y a quelques jours une présentation justement sur une conférence sur le travail collaboratif. Et à ce niveau-là, on nous a présenté un certain nombre d'outils, mais également un rôle clé qui était le rôle de l'ingénieur système, qui avait le rôle justement de coordonner les différents corps de métier, que ce soit sur les aspects techniques ou organisation. Et les trois quarts des problèmes que vous nous présentez sont justement, ressemblent à un manque de ce poste, de ce rôle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce que c'est vraiment une réalité, ce manque ? Merci.
Je vous remercie pour votre question. Et en effet, je dois dire que lorsque l'on analyse plusieurs des difficultés auxquelles nous avons été confrontés dans le passé, c'est bien un manque de coordination, un manque de gestion des interfaces auxquelles on a été obligé de faire face. Je pense en effet que si on veut mettre en œuvre notamment une maquette numérique, l'ingénieur système, sur lequel on peut d'ailleurs appeler d'autres manières selon les méthodes employées, est en effet un rôle primordial. Je crois que ce qui est vraiment le plus important, c'est que la méthodologie soit acceptée par tous et bien partagée. Et ça me semble être vraiment la clé de la réussite. Et de manière à pouvoir corriger très rapidement lorsqu'il y a des écarts.
Une autre question devant, et puis ensuite madame là-bas.
Merci. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas pu suivre toute votre conférence, mais ma question se débordera un peu le domaine de l'énergie nucléaire. Et j'allais vous demander s'il ne faut pas un peu se méfier des spécialistes. Parce que le spécialiste n'est-il pas l'homme aux idées préconçues ?
Alors, écoutez, cette question est évidemment très intéressante. Elle est évidemment, elle s'intéresse plus à un domaine dans lequel je ne suis absolument pas spécialiste, qui aborde plus l'éthique ou la philosophie. Néanmoins, là où je vous partage complètement votre avis, c'est qu'il faut toujours avoir son avis critique et confier l'ensemble de la responsabilité à un spécialiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me faisais bien la distinction entre d'un côté le chef de projet, l'équipe en charge, et d'autre part la responsabilité qui incombe au spécialiste d'apporter sa brique. Mais il ne faut pas se décharger de sa responsabilité envers un spécialiste, quel qu'il soit, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'écoute pas.
Il y avait une dame dans le milieu qui avait levé la main, voilà.
Oui, je reviens aux outils collaboratifs. Lequel des trois personnages entre l'expert, le spécialiste et le généraliste est plus apte à utiliser des outils collaboratifs et pourquoi ?
Alors, je crois que d'abord, l'utilisation d'outils collaboratifs est actuellement en réelle mutation. Et qu'en fait, cet apprentissage va être nécessaire pour l'ensemble des intervenants. Il s'agit, dans certains cas, de penser réellement différemment et de passer au-delà de l'analyse de chacun des éléments, et ça fait d'ailleurs résonance avec d'autres conférences qui ont été présentées ici. Il faut passer au-delà de l'analyse de chacun des éléments pour arriver à penser globalement. C'est en cela, je crois, que chacun doit apporter sa partie, mais je ne vois pas un rôle particulier au niveau de l'outil collaboratif pour chacun d'entre eux.
excusez-moi. Ah, il y a monsieur qui est levé. Ensuite, ce sera bon.
Paul Arnoux, je vous... Je dois vous faire part d'une immense surprise, perplexité. Moi, je ne suis pas du tout technicien, ni sachant en matière d'ingénierie. Ça m'intéresse, c'est tout. Mais moi, lorsque j'étais tout petit à l'école, on me disait, il peut y avoir de fusion possible que... vos trucs avec l'hydrogène, l'atome, les problèmes. Il peut y avoir des températures aussi élevées d'atteinte que par l'explosion initiale d'une bombe atomique. Alors, comment êtes-vous arrivé ? Vous avez, au mot près, vous avez parlé d'une température très, très, très haute qui avait été atteinte. Alors, comment avez-vous réalisé cette prouesse en quelques années ?
Alors, en effet, la réaction de fusion peut être réalisée au sein des bombes thermonucléaires, mais ce n'est pas une réaction continue ni contrôlée. L'objectif de nos recherches est justement d'utiliser le même type de réaction pour une réaction contrôlée de longue durée et d'atteindre notamment ces températures au sein d'une boîte virtuelle. Pour ce faire et l'atteinte de ces températures, ce que l'on met en œuvre sont des processus de chauffage qui mettent en œuvre notamment le chauffage par rayonnement électromagnétique. Et c'est grâce à ce type de chauffage que l'on atteint le niveau de température nécessaire. Quant à la boîte magnétique, elle permet, elle, d'atteindre le niveau de confinement. Nous obtenons maintenant, dans les différents tokamaks, dans différentes installations sur lesquelles les chercheurs travaillent, des températures nécessaires pour atteindre cette réaction.
Monsieur Levent.
Première question. Combien d'ingénieurs emploient votre projet, la répartition entre généralistes, spécialistes, experts? Et puis ensuite, le projet s'étend sur un grand nombre d'années. Comment se passe la transmission des savoirs entre les différentes personnes occupant le même poste?
Alors, en ce qui concerne la répartition ingénieur, je ne peux pas vous le dire pour l'ensemble du projet. Ce que je peux vous dire, c'est au niveau de notre institut, où environ parmi les cadres, environ la moitié sont ingénieurs et la moitié proviennent d'une formation plus universitaire. L'Institut comporte environ 300 personnes et environ la moitié sont des cadres. Ensuite, pour faire une répartition entre généralistes et spécialistes, j'aurais beaucoup plus de difficultés à la donner, puisque justement, mon propos était en partie de dire que à partir du moment où on confie à un généraliste certaines fonctions, il devient lui-même spécialisé dans ce domaine. Votre deuxième partie de la question portait... Excusez-moi, je ne me souviens plus. Ah oui, la transmission du savoir. Alors, lorsque l'on fait une gestion prévisionnelle des compétences, la transmission du savoir est en effet absolument primordiale à prévoir. De manière très schématique, il s'agit que les jeunes arrivent au sein de l'institution avant que les vieux soient tous partis et... pour cette transmission. L'apprentissage est en effet, pour mon avis, la meilleure façon, même si l'écrit ou tous les systèmes numériques permettent une certaine approche.
Sur la gauche.
Oui, bonjour monsieur. Je vais poser une question un petit peu en dehors du sujet, mais quand même vous en avez parlé. Vous avez parlé des rayonnements du soleil. Alors avec différentes revues que j'ai pu consulter, est-ce que vous avez estimé la durée des rayonnements du soleil avant que tout s'éteigne et que nos progénitures se posent des problèmes? C'est quand même une question d'inquiétude.
Alors écoutez, là je dois faire part de mon ignorance et je préfère ne pas donner de chiffres. Tout ce que je sais, c'est qu'il est suffisant quand même pour quelques temps. Nous n'avons pas vraiment de soucis à nous faire. Pardon ?
Ça va s'éteindre un jour, dit...
Ah oui, 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 ça va s'éteindre un jour. Là, il y a un cycle. Là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais il y a un cycle pour toutes les étoiles. Et à la fin, elles s'éteignent. Nous ne serons plus là.
Bonsoir. Donc moi, j'aurais une petite question sur comment est-ce que vous mettez en œuvre votre veille technologique en termes de technologie de fusion, sachant qu'il y a eu, par exemple, aux États-Unis des avancées sur d'autres méthodes de fusion qui peuvent remettre en cause la légitimité d'un projet tel que ITER à terme sur plusieurs décennies. Comment est-ce que lorsqu'on gère un projet aussi complexe et sur d'aussi longue durée, on arrive à mettre en évidence, mettre en balance le besoin d'aller vers d'autres technologies et de les évaluer?
Alors, en effet, il y a d'autres technologies qui peuvent être mises en œuvre sur la fusion au niveau de la Terre, et c'est notamment des technologies sur la base de création de mini-réactions, ce qu'on appelle la fusion inertielle. Le principe, à ce moment-là, c'est de faire des mini-réactions sur des petites billes de deutérium-tritium, avec une fréquence à définir, mais qui serait de l'ordre de plusieurs par seconde, et in fine, on obtiendrait une énergie qui soit pseudo-continue. C'est notamment ce que certaines équipes aux USA, autour de leur installation, prônent. Cette technique est de toute façon très intéressante à développer, et je ne vois pas pourquoi il n'y a pas une concurrence a priori entre ces techniques. Ce qu'il est certain, par contre, c'est que ces techniques vont également nécessiter la mise en œuvre d'un certain nombre de composants qui sont identiques à ceux que nous mettons en œuvre, ou du moins très proches. Toute la problématique, par exemple, que j'ai développée en ce qui concerne les composants face au plasma, va être exactement la même, voire même compliquée dans le cadre de cette technique. Et pour ma part, je trouve très sain qu'il y ait une émulation entre différentes possibilités pour le futur. Je crois qu'in fine, le choix sera fait, ou peut-être qu'il y aura complémentarité entre les deux méthodes.
Merci, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis, moi, étudiante d'une école généraliste, l'ECAM de Lyon, et je me posais une question. Je pense qu'un ingénieur généraliste, en début de carrière, va commencer par une certaine voie, et donc va devoir commencer par se spécialiser avant de revenir à des postes de chef de projet qui sont plus généralistes. Donc c'est difficile de rester généraliste toute sa carrière. On se spécialise forcément dans des domaines. Enfin, il me semble, je ne sais pas.
Mais écoutez, je vous remercie pour ce propos, qui en effet suit tout à fait ce que j'ai observé moi-même, et qu'à mon avis, là aussi, on pourrait peut-être avoir des cycles au niveau d'une carrière. Je crois que ça va tout à fait contre... Je suis vraiment contre tous les cloisonnements à ce niveau-là. On peut passer de périodes, on est plus sur des aspects méthodologique, chef de projet par exemple, et des périodes où on est plus sur un aspect technologique ou fonctionnel.
Sur la droite, oui, je cherchais. Allez-y, madame.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible de vous demander, juste en quelques mots de plus, un petit approfondi sur la création de cette boîte magnétique virtuelle? Également sur le terme création du plasma, si possible. Hein. C'est vrai que ça pouvait être une autre conférence en plus, mais
oui.
C'est très intéressant. Merci.
Alors écoutez, je crois qu'en effet, là, ça devrait faire l'objet vraiment d'un développement beaucoup plus important, et je suis vraiment désolé de m'être limité à des aspects très élémentaires, voire même très schématiques. Non, je crois que je ne vais pas vous répondre là-dessus. Par contre, je vous répète que la faisabilité a été montrée déjà dans certaines, notamment sur notre machine, mais surtout sur le jet, où la réaction de fusion a déjà été mise en œuvre, et elle a bien permis de créer de l'énergie par ces moyens-là, même si la rentabilité est discutée.
Plus de questions ? Dernière alors. La dernière devant.
Je voulais poser une question qui est peut-être en dehors de la conférence, Par exemple, c'est pour le problème entre la source de chaleur. Et on peut donc déplacer la source de chaleur dans un immeuble de 8 étages avec de l'eau chaude à 70 degrés à peu près. Et puis il y a le chauffage urbain qui est à Saint-Ouen, qui déplace avec la vapeur le chauffage jusque dans le 16e assez rapidement. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Que la chaleur, plus on s'éloigne de la source de chaleur, ça diminue. Ça diminue, puis voilà. Qu'est-ce que c'est des photons? C'est des petites particules qui perdent de leur énergie, en quelque sorte.
Alors, écoutez, là aussi, je ne suis vraiment pas du tout spécialiste en thermique, mais ce qui me semble, c'est qu'en effet, c'est la diffusion de la chaleur dans les différents tuyaux qui amène à la baisse de la température.
Bien. Et je propose qu'on s'en arrête là. Le